Bien, bonsoir à tous, chers collègues. Il est 18h30, nous allons démarrer cette séance. Avant de procéder à l'appel, puisque c'est la première fois qu'on se voit depuis la nouvelle année, permettez-moi de vous adresser tous nos voeux de bonheur et tous nos voeux de prospérité dans cette nouvelle année, à vous et à tous ceux qui vous sont chers, que les travaux que nous allons mener durant cette année puissent être, je dirais, prospères et qui puissent permettre de développer notre territoire. Voilà le vœu que je voulais vous adresser en ce début d'année. Donc je vais procéder à l'appel. Madame Marie-Andrée Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci est excusée à donner pouvoir à Monsieur Hervé Flaugère, Madame Françoise Bouclet, Madame Marie Calero, Madame Laure David-Gitan, Madame Laurence Desfonds-Fargeon, Monsieur Hervé Flaugère, Monsieur Juan Garcia, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoux, Madame Cathy Ricard, Madame Bruna Romanini, Monsieur Benoît Sanchez est excusé à donner pouvoir à Monsieur Christian Perron, Madame Anne-Marie Souveton, Madame Virginie Vicente, Monsieur André Vigli est excusé, m'a donné pouvoir, et moi-même. La première question est, conformément au Code général des collectivités territoriales, de la nomination du secrétaire de séance. Il est proposé à l'Assemblée de désigner son secrétaire de séance. Nous proposons Madame Laurence Desfonds-Fargeon, qui s'abstient, la Ligue du Sud, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Merci. La question numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du 7 décembre dernier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 3, il s'agit d'une convention d'objectifs et de financement pour les années 2021-2025 dans le cadre du contrat local d'accompagnement à la scolarité. Et donc, Madame Arnaud, vous avez la parole.
Merci, bonjour. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, la délibération du Conseil communautaire du 24 novembre 2017 approuvant la convention du service commun Action Jeune, la convention d'objectifs et de financement projet de contrat local d'accompagnement à la scolarité annexée, la communauté de communes, dans le cadre de son service commun Action Jeunesse, souhaite développer des actions jeunesse sur l'ensemble de son territoire. Le contrat local d'accompagnement à la scolarité de la caisse d'allocation familiale s'inscrit dans les politiques éducatives territoriales visant au renforcement de l'égalité des chances des enfants et des jeunes en concourant à la prévention des difficultés des enfants en lien avec leur scolarité. La convention d'objectifs et de financement proposée par la caisse d'allocation familiale définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation de service du contrat local d'accompagnement à la scolarité. Une convention a été ainsi conclue pour la période allant du 1er septembre 2019 au 30 juin 2022 par délibération au Conseil communautaire du 17 décembre 2019. La branche famille de la Sécurité sociale poursuit l'ambition de soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants à travers les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, leur singularité au croisement de l'accompagnement à la scolarité, des activités culturelles, de l'appui aux relations parents-école doit cependant être renforcée par un financement plus en lien avec ces exigences. La possibilité récente de contractualiser pour 4 ans avec les porteurs de classe qui ont plus de 2 ans d'ancienneté dans cette activité, la présente convention d'objectifs et de financement se substitue donc à la précédente à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 30 juin 2025. Je vous propose donc d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement à intervenir avec la caisse d'allocation familiale, ayant pour objet de fixer les modalités d'intervention et de versement de la prestation de service au contrat local d'accompagnement à la scolarité à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 30 juin 2025 et d'autoriser le président à signer la convention ci-jointe ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Merci. Question numéro 4. Il s'agit du démantèlement de l'installation nucléaire de base EDF numéro 157, dénommée base chaude opérationnelle du Tricastin à Bolène. Monsieur François Lucas, vous avez la parole.
Merci. Donc la BCOT, c'est un atelier nucléaire qui a été conçu pour entreposer et effectuer des opérations de maintenance, des matériels outillages utilisés dans les centres de production nucléaire du parc EDF. Donc c'est un bâtiment qui a 5000 m² qui se trouve sur le site de Roanneau. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de l'environnement et notamment son article L122-1, vu le courrier de la préfecture de Vaucluse en date du 18 novembre sollicitant l'avis de la collectivité dans le cadre et en application de l'article R593-21 et des dispositions prévues au 5 de l'article L122-1 dans les conditions énoncées au chapitre 2 du titre 2 du livre 1er. Vu l'avis de la commission de développement territorial émis lors de sa réunion en date du 17 janvier 2022, considérant que par lettre du 27 juillet 2021, la préfecture de Vaucluse a été chargée par le ministre de la Transition écologique de procéder aux consultations et à la réalisation de l'enquête publique au titre des articles L123-10 et R123-11 du Code de l'environnement, considérant que par courrier du 18 novembre 2021, la préfecture de Vaucluse a informé la CCRLP que la société EDF a déposé le 18 juin 2019 auprès du ministre chargé de la Sûreté nucléaire un dossier de démantèlement de l'installation nucléaire de base numéro 157, dénommée base chaude opérationnelle du Tricastin, située sur le site de Tricastin, sur le territoire de la commune de Bolène, dans le département de Vaucluse, conformément aux articles L593-27 et R593-67 du Code de l'environnement. Considérant que le dossier a fait l'objet d'une demande d'avis de l'autorité environnementale qui disposait d'un délai de 2 mois à compter du 1er septembre 2021 pour rendre son avis, il est proposé au Conseil communautaire d'émettre un avis favorable relatif à la consultation au titre de l'article L122-1 du Code de l'environnement ayant pour objet le dossier de démantèlement de l'INB EDF numéro 157 de la BCOT du Tricastin sur la commune de Bolène.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 5, il s'agit de l'avis d'enquête publique concernant l'installation nucléaire de base numéro 87. Monsieur François Lucas.
Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'environnement et notamment ses articles suivants, vu l'avis de la commission de développement territorial émis lors de sa réunion en date du 17 janvier 2022, considérant que par courrier du 20 décembre 2021, la préfecture de la Drôme communique pour avis conformément à l'article R593-62-7 du Code de l'environnement, la demande relative aux dispositions proposées par EDF lors du 4e réexamen périodique, au-delà de la 35e année de fonctionnement du réacteur électronucléaire numéro 1, INB numéro 87, situé sur le centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin, sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme. Considérant que ce 4e réexamen est réalisé en 2 phases complémentaires, une générique, qui est commune à tous les réacteurs de type 900 MW électrique, et spécifique à ce réacteur, numéro 1 de Tricastin, comporte les volets risques et inconvénients et propose les dispositions d'amélioration dans le cadre de la poursuite du fonctionnement du réacteur au-delà de 40 ans. Considérant que par arrêté interpréfectoral Drôme-Vaucluse du 10 décembre 2021, une enquête publique d'une durée de 33 jours est ouverte du jeudi 13 janvier 2022 au lundi 14 février 2022. Elle est en cours. Considérant les dispositions proposées par EDF lors du 4e réexamen périodique de ce réacteur sont soumises, après enquête publique, à la procédure d'autorisation par l'autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article L593-15 du Code de l'environnement, sans préjudice de l'autorisation mentionnée au paragraphe 2 de l'article L513-14 en cas de modification substantielle assortie, le cas échéant, de prescriptions complémentaires. Considérant que le présent avis d'enquête ainsi que le dossier d'enquête publique sont publiés sur le site internet accessible à l'adresse suivante. Il est proposé au Conseil communautaire d'émettre un avis favorable relatif à la consultation au titre de l'article R-693-62-7 du Code de l'environnement ayant pour objet du quatrième réexamen périodique au-delà de la 35e année de fonctionnement du réacteur électronucléaire numéro 1 de l'INB numéro 87, situé sur le site de production nucléaire Saint-Paul de Tricastin, sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Juste peut-être vous préciser que sur le territoire donc, du Rhône-Est-Provence, dans le cadre de cette enquête publique, il y a encore 3 permanences qui sont possibles jusqu'au 14 février. Comme les 5 commissaires enquêteurs seront présents le jeudi 3 février de 17h à 20h en mairie de La Palue, le samedi 12 février de 9h à midi en mairie de La Palue et le mardi 8 février de 14h à 17h en mairie de Bolène. S'il n'y a pas de questions, je soumets aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Question numéro 6, il s'agit du programme local sur la prévention des déchets ménagers assimilés 2021-2026. C'est donc une adhésion au syndicat des Ports de Provence. Et c'est donc Madame Ricard qui a la parole.
Merci, Président. Il s'agit ici de délibérer sur l'adhésion au syndicat des Ports de Provence, au CIP. Donc, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, comme vous le savez, ainsi que les plans d'action qui l'accompagnent, vise à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l'environnement. Les récentes évolutions réglementaires nécessitent la mise en œuvre d'une organisation plus efficiente. La prise en compte des évolutions majeures des années à venir dans le domaine de la prévention et la gestion des déchets oblige donc la communauté de communes Rhône-Lès-Provence à s'adapter en cherchant à s'inscrire dans un partenariat, lui garantissant de mieux mobiliser les ressources techniques et financières. Nous considérons ici que le syndicat des Ports de Provence est compétent en matière de prévention, valorisation et traitement des déchets ménagers et assimilés sur l'ensemble des territoires de ces structures adhérentes, intégrant 4 préoccupations majeures dans ces actions. La première, la maîtrise des impacts de la gestion des déchets sur l'environnement. La deuxième, la préservation de la population vis-à-vis des risques sanitaires. La troisième, le respect des règles législatives et réglementaires, bien sûr. Et enfin, la quatrième, avec la maîtrise des coûts financiers. Nous considérons ici, et au vu des enjeux importants de la gestion des déchets, une coordination et une mutualisation apparaissent nécessaires pour atteindre les objectifs nationaux et régionaux. Et considérant que le syndicat des Ports de Provence a mis en œuvre un programme local de prévention permettant une lisibilité des objectifs et des actions jusqu'en 2026, sur son périmètre d'intervention, considérant enfin que plusieurs enjeux guident la prévention des déchets parmi lesquels une économie de matières premières épuisables, la limitation des impacts sur l'environnement et la santé, et les économies financières liées au traitement des déchets. Considérant enfin que conformément aux articles cités sur le papier que vous avez sous les yeux, et afin que la communauté de communes Rhône-Lès-Provence adhère au CIP, il convient ce soir que le conseil communautaire et les conseils municipaux par la suite se prononcent sur cette adhésion dans un délai de 3 mois. Considérant enfin que dans le cadre de cette adhésion, la communauté de communes Rhône-Lès-Provence reste évidemment pleinement compétente en matière de collecte et de fiscalité déchets. Il nous est donc proposé ce soir de nous prononcer favorablement pour l'adhésion de l'ensemble du territoire de la CCRLP au CIP, et ce à compter du 1er mai 2022, de solliciter le comité syndical du CIP afin de statuer sur la demande d'adhésion et procéder ainsi à une modification statutaire, et enfin de désigner les représentants élus du conseil communautaire assiégés au sein du comité syndical du CIP. Et il vous est donc proposé comme élu Anthony Zilio, moi-même, et Christian Perron comme titulaire, de mémoire Hervé Flaugère, Juan Garcia et André Vigli comme titulaire, comme suppléant, excusez-moi, pour représenter notre communauté de communes autour de l'Assemblée du CIP, au sein de l'Assemblée du CIP, pardon. Et ainsi, bien évidemment, d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires à cette adhésion.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions, Madame Caillerou?
Il y a des années que vous rêviez d'adhérer au CIP. Vous trouvez enfin le moyen de le faire au travers du programme local de prévention des déchets. Je ne comprends toujours pas votre tendance à vouloir sans cesse plus de compétences, puis à les déléguer dès que possible. Ne me dites pas que la CCRLP n'a pas la ressource pour créer son programme local. Ce serait insultant pour les agents. Mais je comprends que vous soyez débordés, conseiller départemental, maire, président de la CCRLP, président de la mission locale, du CMBVL. C'est beaucoup pour un seul homme.
Bientôt vice-président du CIP.
Et bientôt, oui, vice-président du CIP, oui. D'autant que pour le CIP, nous vous l'avions démontré en 2017, l'adhésion coûte plus cher que ce qu'elle ne rapporte. Le coût d'adhésion de l'époque était de 3,50 euros pardon, par habitant. Mais le prix de traitement des déchets à la tonne était quasiment identique sans le syndicat. Et donc, sans payer les milliers d'euros d'adhésion. Ainsi, en 2015, nous avions réalisé une économie de 72 000 euros. Mais le temps des économies semble déjà bien loin. Nous avons vu à plusieurs reprises que vous préférez cumuler les déficits sur la gestion des déchets. Avec l'adhésion au CIP, je doute là encore que vous fassiez une bonne affaire. Mais, comme toujours, ce sont les habitants qui payent. Et comme nous n'avons pas eu d'informations sur cette adhésion, je souhaiterais poser quelques questions à Madame Ricard, si elle veut bien me répondre. Quelle sera la participation annuelle par habitant réclamée par le CIP? Combien payons-nous aujourd'hui la tonne de déchets enfouis? Quel sera le prix de traitement à la tonne des déchets enfouis au CIP? Et pourrons-nous ressortir de ce syndicat si nous le souhaitons? Et quelles seront les indemnités des représentants?
Je t'en prie.
Je vais me permettre de répondre, Président. Et bien sûr, je vais répondre à vos questions, Madame Caliro. Je voudrais quand même revenir sur la première partie de votre intervention. Ce sujet, Madame, ne se réduit pas aux fonctions et aux responsabilités d'Anthony Zilio. Vous comprenez bien que la question est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. Et que si Monsieur Zilio est très occupé, comme d'autres élus politiques du territoire, il n'est pas moins entouré de services et d'autres collègues élus qui l'assistent dans son travail. Donc, pointer cela, pour moi, est un peu à côté du sujet. Je voulais vous le dire, voilà, c'est tout simple. Et on ne peut pas faire toujours une polémique autour d'un même personnage, quoi, voilà. Et le sujet est beaucoup trop sérieux pour viser ce genre de choses, voilà. Ensuite, par rapport à vos questions, elles sont toujours évidemment très pertinentes. Je rappelle quand même ici, autour de cette table, que vous participez aux réunions. Vous êtes dans la commission que je préside et vous y travaillez. Vous avez accès à toutes les données que tous les élus ont. Excusez-moi, je finis. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez toujours participé aux réunions. Vous êtes parfois absente, mais sur les sujets de collecte, je pense que vous avez toujours été là. J'ai d'ailleurs quelques comptes rendus de réunions où effectivement j'ai bien vu que vous étiez là. Donc, je ne crois pas que vous soyez en manque d'informations. Et ensuite, il y a des questions auxquelles, pour l'instant, on va pas répondre, puisque ce soir, il s'agit ici d'orienter un choix d'adhésion avec un syndicat. Mais il nous reste quand même à établir le plus gros du travail, parce que s'il s'agit de se positionner sur le principe, il s'agit maintenant d'entreprendre le travail, de construire la convention qui va nous lier avec le syndicat. Et là, évidemment, nous attend cette partie de discussion et de mise au point des accords que nous pouvons, d'ores et déjà auxquels nous pouvons prétendre pour notre territoire, et surtout veiller à défendre les intérêts de nos administrés, de ne pas les faire payer deux fois les mêmes choses, parce que quand même, même si vous êtes, vous me l'accorderez, très critique envers le travail de notre majorité, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu beaucoup de travail de fait en matière de traitement des déchets. Je rappelle tout le travail et l'investissement à travers ce projet que nous avons réalisé de recyclerie et de nouvelles déchetteries particulièrement efficaces aujourd'hui. Donc notre territoire est très très bien fourni en matière de tri de déchets. C'est donc une force pour nous. Et cet investissement, eh bien, il n'est pas question de le repayer une nouvelle fois ailleurs. Donc nous allons veiller à tout ça. Nous veillerons effectivement à pouvoir sortir aussi facilement qu'on peut entrer dans un syndicat. Mais je ne crois pas qu'on puisse être prisonnier de quelque structure que ce soit. En tout cas, nous allons travailler à pouvoir le faire avec pertinence. Et ensuite, écoutez, on essaie de trouver les moins mauvaises solutions. Et dans les moins mauvaises solutions, celle-là nous paraît particulièrement pertinente. Il y a beaucoup de prestations que propose le CIP qui correspondent un peu à ce que nous voulons mettre en œuvre sur le territoire. Donc pourquoi pas ne pas le faire de façon mutualisée. Vous savez que, je suppose que vous devez vous rappeler que lorsque nous avons déjà parlé de ce sujet, et lorsque j'étais alors dans l'opposition, classée dans l'opposition de cette assemblée, j'avais voté contre l'adhésion au CIP. Parce que, par principe et par philosophie, je préfère toujours que l'on maîtrise au mieux les choses et au plus près et au plus local. Ça, je n'ai pas changé d'avis. Par contre, il faut pouvoir être prêt à faire tout ça. Aujourd'hui, la meilleure solution, c'est de pouvoir adhérer à quelque chose qui marche bien et qui est très proche. Il y a notamment un sujet qui aurait pu nous intéresser aussi, c'est de nous regrouper plutôt vers une entité au sud de notre territoire, puisqu'il y a une réflexion qui est menée à travers plusieurs communes qui se regroupent. On a participé à cette réflexion, à ces premiers échanges. Mais en même temps, les choses vont trop lentement. Il faut quand même qu'on se positionne assez vite. Vous voyez bien les difficultés que l'on a à être efficient sur cette nécessité à réduire absolument la production de déchets sur le territoire. Donc on essaie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je change d'avis pour avoir rencontré le CIP, pour avoir essayé de comprendre comment allaient fonctionner les choses. Je pense que ce que l'on nous propose est rassurant et qu'on peut donc essayer de travailler comme ça, voilà, avec sérieux et raison. J'ai dit.
Merci, attendez, je vais vous répondre parce que vous avez déjà parlé. Donc je vais vous répondre, mais vous avez déjà parlé, madame, donc je vais vous répondre. Madame Ricard vous a parlé, je vais vous répondre. En ce qui concerne, mais vous n'avez pas répondu à madame Ricard, puisqu'elle vous a répondu, madame Caléron. Donc, en ce qui concerne le programme local et l'adhésion au CIP, puisque de toute façon, vous politisez l'ensemble des débats. On l'a vu encore hier soir avec les personnes handicapées. Aujourd'hui, c'est la question des déchets. Et à chaque fois, vous avez quelque chose à dire, chose que vous n'avez pas fait par le passé, mais que vous trouvez aujourd'hui la vertu de faire alors que vous ne l'avez jamais fait. sur la question du syndicat des ports de Provence et sur ma question personnelle. Puisqu'à chaque fois que vous avez une question, vous m'attaquez ad nominem, les indemnités, les mandats, etc. Alors je vais vous répondre. D'abord, je ne suis pas président de la mission locale. Vous devriez relire vos fiches, puisque comme je disais l'autre jour, vous avez des fiches qui sont arrêtées. Je ne suis pas président de la mission locale. Et quand j'étais président de la mission locale, je le faisais à titre bénévole. Vous pouvez vérifier, c'est consultable. Je suis président du syndicat mixte du bassin versant du Lez. Alors que tous mes prédécesseurs présidents touchaient une indemnité, je suis président du syndicat mixte bassin versant du Lez à titre bénévole. Vous pouvez vérifier, c'est consultable sur tous les... Si demain je devenais être vice-président du CIP, je refuserais à mon indemnité. Et je le fais toujours parce que je considère que le mandat qui vient du peuple, celui qui a été du suffrage direct, n'a pas besoin de cumuler à d'autres indemnités. Mais c'est un avis personnel et pour lequel mes vice-présidents au SMBVL, par exemple, touchent une indemnité, le président n'en touche pas. Donc c'est quelque chose qui me concerne moi, mais que je ne veux pas associer à d'autres, parce que d'autres ont certainement intérêt à avoir cette indemnité. Mais là, ce n'est pas le débat. Mais preuve encore une fois, madame, que vous essayez toujours de faire de la polémique sur des sujets qui n'en ont pas et sur lesquels, finalement, nous ne le faisons pas, pareil que vous. La question du CIP, ce qui nous préoccupe, et madame Ricard l'a dit, c'est la question du coût à l'usager. On aurait pu faire ce qu'a fait le maire d'Orange, passer la TOM de 7,6 à 14,4, c'est-à-dire la doubler, et faire un incinérateur sur le territoire. Nous n'avons pas les moyens de financer un incinérateur sur un territoire. Donc je vous le dis, avec la responsabilité des comptes publics, aujourd'hui nous bénéficions d'un service dont l'exutoire est à Roussas. On aurait pu, c'est le débat du moment, c'est le débat, le SIDOMRA, le SUSOTOM, l'ensemble des syndicats qui gèrent les déchets sur le département de Vaucluse, entouré par le préfet de Vaucluse, qui voulait faire un syndicat départemental de traitement des déchets, puisque vous confondez tout, vous parlez de collecte, alors qu'il n'en est même pas question dans le syndicat des ports de Provence, puisqu'on ne parle que du traitement. Aujourd'hui, faire en sorte de voir comment on aurait pu le porter au niveau d'un syndicat départemental. Alors, je vais vous faire la démonstration, parce que votre collègue, qui ne siège plus maintenant, mais qui nous avait dit à l'époque, vous perdez de l'argent, les 78 000 euros, etc., etc., j'aimerais vous poser une question, moi. Quel est le prix à la tonne que paye la CCRLP aujourd'hui dans le traitement des ordures ménagères? C'est 123, madame, je ne vous avais pas la parole. 123. Non, mais madame Bompard allait parler, je lui dis qu'elle n'a pas la parole. 123,53 euros la tonne. 123, vous ne le saviez pas. 123,53 euros la tonne. Si nous avions adhéré au CIP, au moment où je vous parle, nous la payerions 104,5 euros la tonne. Donc, force est de constater encore une fois, par ces effets d'annonce, ces effets de manche, en lisant des notes qui sont dépassées, que nous payons 123,53 euros, tout le monde peut le vérifier, hors TGAP. La TGAP, c'est 137 euros hors taxe, vous rajoutez 10% de TVA, on est à 40,70. L'année prochaine, on sera certainement à 45 euros hors taxe de TGAP. S'ajoute à ça la question du transport, etc. Et donc, c'est pour ça que nous avons fait en sorte de gérer les 7774 tonnes de déchets produits chaque année sur notre territoire pour dégager une économie de 10%, vous pouvez le consulter, qui fait que si nous avions adhéré au CIP et si nous y étions aujourd'hui, nous ferions une économie de 137 055 euros par an, rien que sur le fait d'adhérer au CIP dans le prix de la tonne traitée. Donc, vous mentez à longueur de séance et ça en devient pénible. Et avec les chiffres et les rapports et l'ensemble des documents qu'on vous donne, vous continuez à le faire. Il y a un autre sujet, c'est la question de la sûreté financière du traitement des déchets. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu que la TGAP fluctue d'une année sur l'autre. On était à 9 il y a quelques années. On est aujourd'hui à 45 euros de TGAP l'année prochaine. Et donc, nous sommes aujourd'hui à 37 euros. Et donc, nous allons avoir une envolée qui va faire que l'année prochaine, nous atteignons 49,50 euros TTC la tonne de TGAP, puisque la particularité de la TGAP, c'est qu'il faut compter 10% de TVA. C'est une taxe dans la taxe. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, les autres ne sont pas prêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on discute de syndicats de déchets, on ne sait pas comment, on ne sait pas à quel prix, on ne sait pas sur quelle durée on aura une sécurité financière. Parce qu'il ne s'agit pas de regarder le dossier des déchets au moment où je vous parle, mais d'avoir une perspective qui nous permet justement d'assurer une sécurité. Quel sera le prix aujourd'hui si on ne sait pas dans 5 ans quel sera le prix du traitement? Et donc, finalement, on se serait marié pour finalement avoir une explosion des coûts dans les années à venir. Donc, c'est le débat que nous avons porté. Nous avons pris un bureau d'études qui a travaillé sur la question de la collecte et qui a travaillé sur la valorisation des déchets. Parce que contrairement à ce que vous dites, nous étions dans une gestion beaucoup plus rigoureuse après le transfert, puisque, je vous le redis, vous comparez des choses qui n'étaient pas comparables, vous parlez de la collecte, le CIP, on parle que du traitement, et dans le cadre de la collecte, il y avait 3 collectes différentes, Pizorno, c'était vous qui l'aviez choisi, quand nous avons récupéré la compétence, ils assuraient la collecte, aujourd'hui, c'est pas eux, c'est la COVED, et donc vous voyez bien qu'on ne parle pas de la même chose, parce qu'il n'y avait pas les mêmes bordereaux de prix. Donc, force est de constater encore une fois, madame, que vous dites des choses qui n'ont aucun sens. En ce qui concerne la participation politique à ces instances, premièrement. Deuxièmement, sur le fond, puisque nous faisons, par ce biais-là, des économies à hauteur de 10% sur le traitement des ordures ménagères. Et je viens de vous en apporter la démonstration. Et vous savez, à l'époque, on était à 98 euros. Je m'en rappelle très bien, on était à 63 euros et il y avait de la TGAP, on était à 98 euros la tonne. Vous voyez, quand on en parlait à l'époque pour adhérer au CIP. On a bénéficié de ce tarif-là et si on avait des tarifs à la COVED qui étaient de l'ordre de 110 euros la tonne. Donc vous voyez que déjà à l'époque, le fait d'adhérer au CIP, on aurait bénéficié d'un prix qui était beaucoup plus correct sur le traitement. Alors le déchet, c'est complexe parce qu'il y a le transport et il y a la collecte qui se rajoute à la question du traitement. Et pour ça, il y a un autre sujet, c'était celui d'adhérer à un syndicat départemental, dont l'exutoire était à Entraigues, sur le site d'Entraigues ou sur Vedaine, ou sur l'incinérateur autour du Pontet, et il fallait rajouter le transport d'ici à là-bas, qui n'est pas le transport d'ici à Roussas. Enfin, le troisième point, c'est le schéma régional, le SRADET, qui a fait que, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus par le passé, où on jetait les ordures ménagères des Bouches-du-Rhône dans les Alpes de Haute-Provence ou dans les Hautes-Alpes, il y a eu un cadre qui a été refait par le préfet de région. Les déchets produits dans une région doivent être incinérés, enfouis dans une région, et ils ne peuvent pas sortir ailleurs. Et c'est tout à fait normal, parce que des régions devenaient les poubelles d'autres régions. Et nous avons eu une dérogation pour les périodes, pour les transitions administratives, puisque Roussas est dans la Drôme et que Bolène est dans le Vaucluse, pour faire en sorte qu'on puisse faire un contour à cet exercice dans le cadre, dès lors que les frais de transport sont amoindris par rapport à d'autres frais de transport qui seraient plus conséquents, en l'occurrence, il fallait à Vedaine ou à Entraigues. Donc c'est pour cela que nous l'avons pris dans ce sens-là, avec l'ensemble des services qui sont rattachés à ce CIP, puisqu'aujourd'hui, par exemple, on ne fait pas le compostage. Vous le savez, c'était dans la loi, c'est inscrit dans la loi, et je crois qu'à l'horizon 2023, ça sera rendu obligatoire. L'ensemble des Français devra composter ses déchets verts, ces déchets qui peuvent être compostés, et que le CIP, pour une modique somme, permet à chaque personne qui adhère dans le cadre d'un territoire qui adhère, de pouvoir distribuer des bacs de compostage pour faire en sorte de trier ces déchets-là. Donc, il y a la question de l'amiante, il y a la question du compost, il y a certainement d'autres services avec des ambassadeurs du tri, etc., qui permettent de faire ce tri-là. Et enfin, il y avait un point qui est important, c'est le volume du traitement. Parce que l'incinérateur, je parlais tout à l'heure à Orange, la CCPRO en mars a dit « nous allons faire un incinérateur », très bien. Il faut le financer, avec quel volume et quel est le rendement de cet outil-là. Et c'est le débat d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le site du CIP, nous avons la garantie d'avoir nos 8000 tonnes annuelles qui peuvent être traitées. D'autres ont fait ce choix, pas loin d'ici, continuent de le faire, etc., pour faire en sorte de pouvoir avoir des prix qui sont réduits parce que les volumes de tonnes qui sont traités, pardon, sont des volumes qui permettent de réduire le prix à la tonne, ce qui n'est pas le cas si vous avez moins de tonnes à traiter, et ça, tout le monde peut le comprendre. Donc, voilà le sujet sur la question des économies 140 000, et sur le reste, sur la partie du transport et sur la question de la collecte. La collecte, nous allons bien évidemment relancer la question de la collecte, et nous allons l'harmoniser encore un peu plus fort sur la question des bacs de 600 litres, des bacs de 220 litres, etc. C'est le travail qui est mené par le bureau d'études et qui est mené par les services, pour faire en sorte d'optimiser justement ces coûts. Voilà. Enfin, le dernier, je le dis pour la presse, c'est que la décision que nous prenons aujourd'hui est une décision de principe qui devra être soumise à l'ensemble des communes adhérentes du CIP dans la réserve de ce que prévoit la loi, c'est-à-dire qu'il y ait une majorité dans la majorité qui peut faire veto pour faire en sorte qu'elle accepte que la CCRLP puisse rentrer au syndicat des ports de Provence. Je le répète ici, mais nous faisons le vœu d'y adhérer. Mais encore faut-il que tout le monde veuille qu'on y rentre. Ça, c'est un autre point, mais je pense que c'est important de le préciser. Et enfin, dernier point, aujourd'hui, nous avons la sécurité financière avec le CIP sur les 5 prochaines années d'avoir un gel financier sur le traitement, ce qui n'est aujourd'hui, à l'horizon de tous les dispositifs qui se présentent à nous, pas le cas de beaucoup d'entre eux. Ils ne savent toujours pas quel va être l'exutoire et comment ça va être traité pour les syndicats qui sont en train de se créer ou en train de discuter de ces sujets-là. Voilà ce que je souhaitais apporter comme précision. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Madame Bompard. Mais je vous donne la parole, madame.
Alors, comme toujours, vous voyez les questions.
Ont été posées à Madame Ricard, mais vous y répondez largement, enfin largement, abondamment, on va dire, mais pas forcément précisément. Alors, juste pour une petite précision d'un ami de Valence, le citrate de Valence a adhéré. Rien ne fonctionne. Et non seulement rien ne fonctionne, mais en plus, les prix ont explosé. Les prix ont explosé. Et le prix est répercuté aussi, la part des habitants a explosé également. Et ils ont même créé une taxe pour résorber tous ces problèmes. Alors, moi je veux bien que vous sachiez tout, mais apparemment, vous venez de nous donner beaucoup de choses, d'éléments. Mais le problème, c'est quand on demande à Madame Ricard, quand on écoute Madame Ricard, elle nous dit qu'on n'a pas trop de détails parce qu'on va vers ça avec la convention. Il me semble que quand on va passer une convention, on a déjà les éléments. Parce que sinon, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Donc, à une réponse aussi absconse, vous répondez, vous, abondamment, tout aussi...
Pas du tout, vous avez dit le prix.
Mais bien sûr. Et surtout, vérifier que ce que les gens de Valence m'ont dit, qui sont totalement déçus et qui surcoûtent et surpayent. Voilà.
Merci. Madame Caléron.
Oui, donc je voulais répondre à Madame Ricard, puisque c'était avec elle que je voulais avoir un échange. Concernant les commissions déchets, vous savez très bien que j'y participe tout le temps. Non, mais c'était vos réflexions, ça m'agaçait un petit peu, quoi. Contrairement à d'autres et contrairement à certains élus bolénois qui sont à la charge des dossiers, je suis là, je suis présente et voilà, je représente la partie de la population qui a voté pour nous. Et c'est un devoir et un droit aussi. Voilà. Et je voulais préciser aussi que cette question n'était pas passée en commission finance, en commission déchets, excusez-moi. Et je n'ai pas pu poser les questions que je viens de vous poser, sinon je l'aurais fait.
Excellent.
Voilà.
On vous fera passer les comptes rendus que j'ai là, de la commission environnement déchets, qui a traité de ce sujet par deux fois déjà. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, vous participez à la commission, je vous y vois régulièrement, vous êtes parfois absente.
Ça m'est arrivé une fois, Madame Ricard.
On va discuter sur le nombre d'absences.
Et ce n'était pas de mon fait. Alors, si non, ça a été rajouté lorsque je n'étais pas là... Mais si, vous me faites un reproche, vous me faites un reproche.
Non, pas du
donc,
tout.
Je vous réponds.
Vous entendez un reproche
rendu,
et
je ne l'ai pas eu.
S'il vous plaît.
Voilà.
Je ne vous fais pas de reproche, je vous dis simplement que ça a été traité en commission. Je vous ferai passer, Madame Ross, je vous prie, vous ferez passer à Madame Calero à nouveau les comptes rendus de la commission pour qu'elle puisse réviser ce qu'elle nous dit ce soir. Je ne vous fais pas de reproche quand je vous dis il vous est arrivé une ou deux fois de ne pas être là pendant l'année qui est passée. Ça arrive à tout le monde, moi aussi. Il m'arrive d'être malade et de ne pas être là. Ce n'est pas un reproche, madame. C'est peut-être effectivement qu'à ce moment-là, on a parlé d'un sujet où vous n'étiez pas là et ça, les quelques données vous ont échappé si vous n'avez pas lu le compte-rendu. Peut-être, ce n'est pas un reproche. Mais c'est tout simplement pour vous dire que vous travaillez au sein de la commission, que c'est un endroit où, justement, il y a des échanges possibles et des témoignages à apporter au sein de la commission pour faire avancer la réflexion. Ce que je veux vous dire, Madame Calero, c'est que pendant le travail de la commission, je ne vous entends pas. Je vous entends toujours ici, lorsque nous sommes enregistrés, lorsque la presse est là. Ça, oui, là, je vous entends. C'est le droit le plus absolu que vous avez. Ça s'appelle de la démocratie. Mais lorsqu'on veut vraiment participer au travail au service d'un territoire, on travaille aussi au sein d'une commission pour apporter des idées, pour procéder à des échanges et pour éclairer les avis. Et ça, Madame Calero, je peux vous dire que vous restez muette en permanence.
Bien, merci. Juste, j'aimerais, nous avons désigné les titulaires et les suppléants. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que nous votons à main levée les suppléants et les titulaires ? Donc, je rappelle ce qu'a présenté Madame Ricard. Anthony Zilio, Cathy Ricard, Christian Perron, titulaire. Hervé Flaugier, Juan Garcia, André Vigli, suppléant. Qui s'abstient ? Qui est contre ? La Ligue du Sud. Dossier adopté avec la majorité. Question numéro 7, il s'agit de la prolongation de la convention pour les déchets d'équipement électrique ou électronique ménager. Madame Ricard, vous avez la parole.
La filière de recyclage et de traitement des déchets d'équipement électrique et électronique est en place depuis le 15 novembre 2006. Et l'OCA de 3E est l'organisme qui coordonne l'organisation de cette filière. Vous confirmez bien ?
Pardon ?
Vous confirmez bien, j'entends, c'est ça ?
Non, je parle.
Ah, pardon. Oui, oui, non, mais écoutez, parce qu'après, vous n'allez pas suivre. Considérant que la communauté de communes Rhône-Lez-Provence s'est vue transférer la compétence gestion des déchets, s'il vous plaît, madame, D3E, et doit ainsi gérer les déchets issus d'équipements électriques et électroniques, produits par les ménages sur le territoire de l'intercommunalité. Pour cela, la CCRP a conventionné par délibération du Conseil communautaire en date du 11 avril 2017. Considérant qu'en raison des perturbations liées à la crise de la Covid, le gouvernement a confirmé le principe de renouvellement de l'agrément pour un an sur le principe de l'ancien cahier des charges, et considérant que par courrier en date du 3 janvier 2022, L'OCAD 3E nous informe que leur agrément a été prolongé jusqu'au 1er juillet 2022 par arrêté conjoint du ministère de la Transition écologique, du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Considérant que la communauté de communes Rhône-Lez-Provence a établi pour la convention signée en 2021 une délibération au Conseil communautaire en date du 15 décembre 2021, indiquant une durée d'un an, du 1er janvier 21 au 31 décembre 21, et considérant par conséquent qu'il apparaît nécessaire de procéder à une nouvelle délibération pour actualiser la convention et porter sa durée au moins jusqu'au 1er juillet 2022. Il s'agit ici donc d'approuver la présente délibération actualisant cette convention et d'autoriser le président à signer tous les documents qui se rapportent à ce dossier.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 8, il s'agit d'une demande d'autorisation environnementale déposée par la SCI Logistique Bolène afin d'obtenir la modification de l'arrêté préfectoral de décembre 2020 portant autorisation d'exploiter la plateforme logistique Bolène 2 située Zacpan Europarc sur le territoire de la commune de Bolène. Et Madame Desfonds-Fargeon, vous avez la parole.
Il s'agit pour la communauté de communes donc de donner son avis dans le cadre de cette enquête publique. Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 septembre 2020 émettant un avis favorable avec prise en compte de points de vigilance qui ont été précisés sur le projet de création d'entrepôts logistiques par la SCI Logistique Bolène sur la ZAC Pan-Europarc de Bolène. Vu l'avis de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement PACA en date du 27 mai 2021 qui confirme qu'il n'y a pas d'observation sur cette demande d'autorisation environnementale. Vu le maintien de l'avis favorable de l'ARS PACA en date du 2 juin 2021, selon lequel il faudra prendre toutes les décisions nécessaires pour que ces installations n'engendrent pas de pollution dans le réseau hydraulique superficiel, le Lauzon et le canal agricole. Vu l'avis de la DDT Vaucluse en date du 28 mai 2021 qui n'émet pas d'observation sur cette modification, vu l'avis de la DRAC dont il ressort que celle-ci n'envisage pas d'émettre de prescriptions supplémentaires dans le cadre de ce projet au titre de la réglementation sur l'archéologie préventive. Et enfin, vu l'avis de la commission développement territorial émis lors de sa réunion en date du 17 janvier 2022. Considérant que l'avis d'enquête publique installation classée pour la protection de l'environnement sur la commune de Bolène, déposée en date du 6 avril 2021, a effet d'obtenir la modification de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2020, donnant autorisation d'exploiter la plateforme logistique dite Bolène 2, située ZAC Pan-Europarc sur le territoire de la commune de Bolène. Considérant que la superficie totale du bâtiment concerné passe de 50 206 m² à 55 641 m². Considérant que les modifications projetées relèvent de l'autorisation environnementale. Considérant qu'à l'issue de la procédure, la décision relative à la demande d'autorisation de modifier substantiellement une plateforme logistique sera soit un arrêté préfectoral complémentaire, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, soit une décision de refus. Considérant que le préfet de Vaucluse statue sur la demande dans un délai de 3 mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer, ce délai peut être prorogé. Considérant que l'enquête publique se déroulera du lundi 24 janvier 2022 au mercredi 23 février 2022 inclus, pour une durée donc de 31 jours. Considérant qu'un commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Bolène afin de recevoir les observations du public aux dates et heures suivantes, donc lundi 24 janvier, donc c'était hier, de 9h à 12h, vendredi 4 février de 14h à 17h, lundi 14 février de 14h à 17h et mercredi 23 février de 14h à 17h. Le dossier est par ailleurs consultable par voie dématérialisée sur le site internet de l'État en Vaucluse, vaucluse.gouv.fr. Il est donc procédé au Conseil communautaire d'émettre un avis favorable relatif à l'enquête publique sur la demande d'autorisation environnementale déposée par la SCI Logistique Bolène afin d'obtenir la modification de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2020 portant autorisation d'exploiter la plateforme logistique Bolène 2 située ZAC Pan-Europarc sur le territoire de la commune de Bolène.
Merci Madame Desfontforges. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 9. Il s'agit de l'approbation du procès-verbal de mise à disposition des équipements reconnus d'intérêt communautaire par la commune de La Palue au titre de la compétence entretien, aménagement et création de la voirie. Monsieur Perron, vous avez la parole.
Donc vous avez pu consulter en pièce jointe à la convocation de la commission. Le procès-verbal établi concernant la commune de La Palue, ce procès-verbal reprend les éléments de voirie conformément à la délibération du 13 mars 2018. Donc, vu l'avis favorable de la commission des finances du 18-01 du janvier 2022, donc a priori il n'est pas nécessaire de revenir en détail sur son contenu, sauf question. Donc le conseil communautaire est appelé à approuver le procès-verbal relatif à la mise à disposition des biens de la commune de La Palue dans le cadre du transfert de la compétence création, aménagement et entretien de la voirie reconnue d'intérêt communautaire, et bien sûr d'autoriser le président à signer ce procès-verbal et tout document se rapportant à ce dossier.
Merci M. Perron. Chemin des Aubépines, rue Basse des Pêcheurs et chemin des Muraillettes, voilà les chemins en question. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 10, il s'agit de la fixation de la nature des dépenses pouvant être imputées au compte 6232. Monsieur Perron.
Donc, en vertu du décret numéro 2016-33 du 20 janvier 2016, fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, La service de gestion comptable de Vaison-la-Romaine, dont dépend la communauté de communes, sollicite la fixation par l'Assemblée délibérante des dépenses dont la nature induit une imputation au compte 6232, fêtes et cérémonies. Vu l'avis favorable de la commission des finances donc, du 18 janvier 2022, en conséquence, il est proposé au conseil communautaire de fixer ses dépenses comme suit. D'une manière générale, l'ensemble des biens et services ayant trait aux fêtes et aux cérémonies officielles ou traditionnelles, fêtes nationales, armistice, victoires, fêtes du travail, fêtes de fin d'année, etc. L'ensemble des dépenses liées à l'organisation des manifestations au titre des fêtes subvisées, colis de fin d'année, opérations Noël commerçant, repas de fin d'année du personnel ou autres, l'ensemble des frais annexés liés aux opérations mentionnées précédemment, annonce, insertion, frais de déplacement ou de restauration, etc. Donc, il est proposé au Conseil communautaire donc, de valider la liste des dépenses imputables au compte 6232, fêtes et cérémonies. Monsieur le Président.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 11, il s'agit de l'approbation de la mise à jour de l'accord cadre relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la collectivité. Vous avez l'ensemble des considérants. L'accord cadre actuellement appliqué dans la collectivité est conforme aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Une mise à jour a été nécessaire pour prendre en compte les services qui ont été créés depuis le 1er juillet 2017 suite au transfert de nouvelles compétences. Il est donc proposé à l'Assemblée intercommunale d'approuver cette mise à jour avec effet au 1er février 2022 et de m'autoriser à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 12, il s'agit de l'approbation des conventions de mise à disposition d'agences SRL près de la commune de Bolène. Vous avez les agents concernés à hauteur de 40% du temps complet. Conformément à la réglementation, cette mise à disposition est opérée à titre onéreux. Les modalités pratiques et financières sont précisées dans la convention. Il est donc proposé à l'Assemblée intercommunale d'approuver les conventions de mise à disposition et de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à l'exécution de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 13, il s'agit de l'approbation de la convention de mise à disposition d'un agent de la commune de Bolène auprès de la CCRLP. Vous avez le nom de la personne pour la période du 1er février au 1er février 2023, donc 31 janvier 2023, hauteur de 40% du temps complet. Il vous est proposé d'approuver la convention de mise à disposition et de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à l'exécution de cette présente délibération.
Président, il y a une erreur dans la convention.
Ah.
Il est noté que, vu la délibération du Conseil communautaire au 1er février 2021, et je pense que c'est au 1er février 2022.
Alors, ouais. Ouais. Vous avez raison. Ça sera modifié en conséquence. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 14, il s'agit cette fois de la mise en place du service donc sur la mise à disposition de l'agent de la commune de Mondragon auprès de la CCRLP. Dans le cadre du service commun Action Jeunesse depuis le 1er janvier 2018, il s'agit de renouveler la mise à disposition de l'agent que vous avez cité sur la délibération du 1er janvier au 30 juin à hauteur de 250 heures sur la période scolaire et d'approuver le renouvellement de cette convention et de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à l'exécution de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 15. Il s'agit de l'approbation de la convention de mise à disposition d'un agent de la commune de Mondragon auprès de la CRLP Il s'agit d'une convention, donc de l'accord de l'agent sur les missions de maintenance d'entretien technique dans les bâtiments dans le cadre du transfert des compétences optionnelles sur entretien, fonctionnement, équipement culturel et sportif. Vous avez le nom de l'agent du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à hauteur de 330 heures. Il est proposé au Conseil d'approuver la convention de mise à disposition et de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions, pardon ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. La séance est terminée. Très belle soirée à tous. Et merci.